Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont-Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Le cheval de Troie, vous vous souvenez. Jean-Pierre Vernon, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste de la Grèce ancienne, nous raconte la terrible guerre entre Grecs et Troyens, qui dura 10 ans et qui se conclut par une ruse mémorable. Au point de départ, une certaine pomme de discorde.
Raconter la mythologie grecque, Jean-Pierre Vernon, c'est forcément à un moment ou l'autre parler de la guerre entre les Grecs et les Troyens et donc parler de l'Iliade, puis de l'Odyssée. Mais tout d'abord, un mot sur un géant, Homère.
Homère, pour nous, c'est tout simplement l'auteur de 2 gros volumes que nous considérons comme des textes au même titre que d'autres textes littéraires. Aux yeux des Grecs, peut-être, à une certaine période, c'est devenu cela. Mais encore à l'époque classique, Homère, c'est encore bien autre chose. Est-ce qu'il y a eu un Homère? Est-ce qu'il a écrit en même temps l'Iliade et l'Odyssée? Ou est-ce que ces deux textes sont différents? Je ne suis pas sûr que la question même ait un sens, parce que ces grandes épopées, comme l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des chants de tradition orale, qui ont par conséquent été transmis sur des siècles, et qui étaient à la fois récité par cœur et improvisé par le chanteur. On connaît ça un peu mieux parce qu'on a regardé par exemple ce qui se passait en Yougoslavie où des bardes étaient susceptibles de chanter pendant des jours et des jours des milliers de vers qu'ils avaient emmagasinés, dont ils avaient le sens du rythme et en même temps ils variaient cela. Donc c'est une poésie qui, tant qu'elle est vivante, tant qu'elle est parlée, se modifie. À un moment donné, c'est fixé dans ces textes qui deviennent canoniques. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler de Monsieur Homère? Les Grecs se le représentent comme une sorte d'aède inspirée. Ce qu'il dit, ce qu'il chante, en réalité, c'est une déesse qui s'appelle Mnemosyne, qui veut dire mémoire. C'est la mémoire qu'il inspire et qui fait que quand il chante, tout en s'accompagnant de la musique et peut-être même en esquissant quelques pas de danse, en réalité, c'est la mémoire, c'est la déesse mémoire qui sait tout, qui sait ce qui a été, ce qui est et ce qui sera, qui est comme une puissance de divination qui l'habite et qui le fait réciter les vers devant le public. Et pour le public, ce qu'il raconte, c'est l'origine, leur origine, les temps anciens, le temps des héros, que tout le monde sait et que les enfants apprennent à l'école.
Alors, presque 3000 ans après Homère, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Giraudoux écrit « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Et dans les premières répliques, il fait dire à Andromaque « La guerre de Troie n'aura pas lieu » et Cassandre répond « La guerre de Troie aura lieu ». Alors, a-t-elle eu lieu cette guerre de Troie?
Vous pouvez me dire si elle aura lieu. Elle a eu lieu dans l'Iliade. C'est tout ce que je peux dire. Qui a eu une grande expédition de toute la Grèce contre les Troyens, je n'en suis pas du tout sûr, et aucun historien, aucun mythographe n'a pu présenter ça. Vous savez qu'on a fait des fouilles en Asie mineure pour retrouver l'ancienne Troie. Il y a une série de couches où les villes ont été successivement décrites, mais on ne peut pas faire coïncider exactement les données archéologiques et les données plus ou moins que nous avons dans l'Iliade. Est-ce que c'est tellement important? Quel est lieu? Ce qui a lieu, ce que nous avons, c'est l'Iliade et c'est l'Odyssée, et c'est pas rien.
Alors, au tout départ de cette guerre, il y a le fait que Zeus sait que s'il épouse Thétis, il aura un enfant et que cet enfant lui portera malheur, raison pour laquelle il faut absolument que Thétis se marie ailleurs.
Oui, c'est-à-dire que nous retrouvons ici, en passant, si je peux dire, à un autre moment, à un autre stade, ce que nous avions déjà vu, le problème que pour les dieux, il faut surtout arrêter le mouvement, qui est le mouvement naturel, le mouvement temporel, où les générations se succèdent. Alors, il a épousé Métis, il l'a avalé, et on peut considérer qu'il est paré contre ce danger, pas tout à fait. parce que l'histoire raconte que deux très grands dieux, Zeus et Poséidon, rivalisent avec l'idée qu'il faut épouser, ils sont amoureux de cette Thétis, qui est une Néréide, c'est-à-dire qu'elle est la fille de Néré, le vieux de la mer, le patron de la mer, celui qui habite dans les palais sous-marins, dans l'obscurité des eaux profondes. Et elle est la petite fille de Pontos, le flot marin, celui que Gaïa a créé en quelque sorte d'elle-même, et qui est à la fois le contraire et le complément de la terre solide. Donc, c'est une personne qui se rattache à ce qu'il y a de plus antique, de plus authentique aussi dans le monde. Et cette Thétis, elle a le même pouvoir de métamorphose que d'autres divinités marines, et qu'en particulier que Métis. Et c'est Prométhée qui va révéler à Zeus et à Poséidon qu'il est inscrit de toute nécessité que le fils que va engendrer Thétis, quel que soit son père, sera plus fort que ce père. Donc les dieux se disent « aïe aïe aïe, c'est pas pour nous ». Et la logique qui va aboutir à cette énorme guerre de Troie, c'est précisément que les dieux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Thétis? Ils ne veulent pas que Thétis épouse un dieu, parce qu'alors va naître un rejeton qui sera dangereux pour ce monde des dieux qui est maintenant bien organisé et bien fixé. Alors, elle pourrait faire comme d'autres déesses, rester vierge. Ben, il ne semble pas qu'elle en ait le désir. On va donc se débrouiller pour que ce que représente Thétis, à la fois de grand, mettre au monde un enfant qui d'une certaine façon dominera la génération précédente, et de dangereux, puisque s'il s'agit de Dieu, ils vont se trouver en compétition. Eh bien, cette Thétis, il va falloir qu'un homme s'en charge. Et les dieux poussent Pélée, qui est roi de Phtie, à briguer la main de Thétis. Ça ne va pas tout seul,
oh là là.
Parce qu'évidemment, Thétis considère que cet humain, un simple humain, là, sur le bord de la mer, qui prétend l'épouser, c'est quand même, pour une déesse, c'est quand même une solution...
De facilité.
De facilité, je ne sais pas, mais en tout cas dégradante. Elle baisse d'un cran. Alors il y a cette grande bataille qui est représentée sur beaucoup de vases et dans beaucoup de récits, où Pélée, comme Zeus veut maîtriser Métis, Pélée doit maîtriser Thétis. Alors il est sur le bord de la mer, là, dans un endroit qui s'appellera le Cap de la Sèche, le Cap Sépias. Il attrape Thétis par le bras et il sait que la seule façon, on lui a dit, que la seule façon de vaincre un de ces êtres à métamorphose, c'est de lui faire une prise circulaire, de l'enfermer, comme ça, en faisant un étau avec les bras, et quoi qu'il arrive, de ne pas lâcher. Alors elle prend toutes les formes, et la dernière forme qu'elle prend, c'est effectivement, elle devient une sèche. Pourquoi une sèche? Parce que la sèche a ceci de particulier, que dans les profondeurs marines, lorsqu'elle est en danger, elle projette ce qu'on appelle l'encre, et ainsi, elle s'entoure de la nuit, d'obscurité, et à travers cette sombre nuée qu'elle a elle-même éjectée, elle peut se sauver et échapper à ceux qui veulent en faire une proie. Alors elle essaye ça avec Pélée, ça ne marche pas. Finalement, quoi? Finalement, on va avoir, pour expliquer, si je peux dire, mythiquement, le sens de cette guerre, un premier acte qui est la célébration solennelle sur le mont Pélion des noces de Thétis et de Pélée.
À ces noces, précisément, quelqu'un qui n'est pas une bonne fée, qui est une mauvaise déesse, va venir et que c'est ça qui va en fait déclencher la guerre de Troie indirectement.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Ces noces, moi je dirais volontiers qu'il va y avoir là trois sommets qui vont jouer un rôle. Il y a le Pélion, il y a le mont Ida à Troie, et il y a peut-être le Tégète à Sparte. Pourquoi? Parce que sur ces montagnes très hautes, au fond, c'est une espèce de rencontre au sommet entre les dieux et les hommes, qui pour un moment sont unis pour la célébration de noces, mais qui en même temps... Alors, l'union, c'est merveilleux, les dieux et les hommes sont réunis, ils festoient ensemble, mais très souvent, les conséquences sont néfastes. Et dans le cas de Tétis et Pélée, on célèbre ces noces sur le Pélion, tous les dieux sont présents, sans exception, et chacun apporte des cadeaux, on apporte des cadeaux merveilleux, des armes qui sont magiques, une lance, un bouclier, deux chevaux, qui sont des chevaux immortels et doués même du don de prophétie, qui sont les chevaux
d'Achille,
bien sûr. Et donc tout est merveilleux, et au milieu de la fête, tout d'un coup, on voit arriver une personne qui n'avait pas été invitée, du moins c'est ce qu'elle prétend. Et qui est qui?
La fameuse Eris.
La fameuse Eris, la discorde. Le fait qu'entre des amis, des alliés, tout d'un coup, le désaccord surgit, la haine, la violence et la guerre. Et Eris, elle apparaît et au milieu de ces cadeaux que tous les dieux ont donnés, elle jette une pomme d'or. La pomme, c'est un cadeau érotique pour les Grecs. Donner une pomme... Apporter une pomme à quelqu'un, c'est en quelque façon lui faire une déclaration d'amour. Et là, cette merveilleuse pomme d'or brille, mais elle porte une inscription à la plus belle. À la plus belle. Alors, à qui va échoir cette pomme? Tout le monde est réuni, en particulier les trois déesses qui peuvent considérer que chacune est la plus belle, c'est-à-dire Athéna, Héra et Aphrodite. Mais aucune ne peut prendre cette pomme sans précisément que la querelle n'apparaisse chez les dieux. Le résultat, de nouveau, ça va être qu'on va faire glisser ça. Zeus ne choisit pas, aucun dieu ne va se prononcer, Eris n'interviendra pas dans le monde divin, on va la faire glisser chez les hommes sous la forme, quoi? Que sur le mont Ida, il y a un jeune homme, Paris, dont le vrai nom a été à un moment donné Alexandre.
Le mont Ida en Troade.
En Troade, bien sûr, en Tertre, à côté de Troie, une montagne, comme toutes ces montagnes, qui à la fois implique l'abandon des terres cultivées, des villes, un endroit où les jeunes sont là au milieu des centaures et des bêtes sauvages, et apprennent quoi? Et apprennent à devenir un homme, à devenir un adulte, à chanter, à danser, à se tenir bien, à se contrôler, à manier les armes. Le dressage des jeunes se fait dans ces terres sauvages, proches des dieux précisément. Et Alexandre, lui, a été à un moment donné abandonné sur cette terre, parce que...
Alexandre Paris, donc.
Hein. Alexandre Paris, vous avez raison de me le dire. À ce moment-là, il est Alexandre. Il a été... Sa mère avait fait un rêve où elle voyait que ce fils était comme une torche qui incendiait Troie. Et alors, quand le petit enfant est né, elle l'a expédié sur ce mont. Là, une ours l'a soigné, des bergers l'ont élevé. Finalement, il va revenir, être reconnu et être de nouveau accepté. Alors, il est sur cette montagne, il est un jeune homme, et il voit arriver les trois déesses menées par Hermès. Et on lui met le marché en main, Hermès, il est terrorisé au début, parce que quand les hommes voient arriver des dieux et des déesses, comme je vous vois là en chair et en os, hein, ça tourne mal. Hermès le rassure et lui dit « Non, ne t'inquiète pas, simplement... Les dieux m'ont chargé de te dire que c'est toi qui dois décider de ces trois déesses, quelle est la plus belle, à qui va la pomme. » Alors chacune de ces déesses, elles se dénudent, elles se montrent dans leur authenticité divine, dans leur beauté, et chacune, bien entendu, en douce, lui glisse dans l'oreille, « Si tu me choisis, je te donnerai ce dont je dispose. » Et Athéna lui donnera la victoire militaire, il sera un conquérant, et en même temps l'intelligence. Héra lui donnera quoi? Elle lui donnera ce qu'elle représente dans le monde divin, comme épouse de Zeus, une souveraineté totale. Il sera le roi des mortels. Et Aphrodite lui apporte quoi ? Elle lui apporte le pouvoir de séduction amoureux, toutes les femmes t'aimeront, et surtout, celle qui t'aimera, c'est Hélène, la belle Hélène, qui est déjà née, qui est toute jeunette, et donc dont la réputation s'est déjà répandue partout. Et il choisit, Paris, de donner la pomme à Aphrodite. Et par conséquent, à partir de là, les choses sont enclenchées, parce que la petite Hélène, elle aussi, elle est née dans des conditions tout à fait extraordinaires. Elle est la fille de Léda, que Léda était l'épouse de Tindare. Au moment où ils se marient, on l'a encore dans ses noces humaines, Zeus, qui a vu Léda, ne résiste pas.
Se transforme en cygne.
Se transforme en cygne et vient sous la forme d'un cygne. Le jour même, la nuit de noces de Léda, il s'unit avec elle après Tindare. Et en ce sens, Léda porte en elle une double semence, une semence humaine, une semence divine. Et Hélène est de cette semence divine, comme Clytemnestre, sa sœur, ce sont deux femmes maléfiques, deux femmes maudites d'une certaine façon, porteuses de malheur, mais en même temps, un peu comme, si je peux dire, un peu comme Pandora, en même temps, elles sont la beauté même, et surtout Hélène, elle rayonne de beauté, et par conséquent, on lui pardonne tout, parce que la beauté, c'est précisément cette marque divine sur l'homme, ce reflet du divin chez l'homme. Alors, Hélène, bah, Tindare, il se dit, au moment où elle a 15 ans, il faut la marier. Comment marier un joyau aussi précieux, une beauté aussi merveilleuse? Alors, il se le demande. Et il décide d'une certaine façon de mettre tout ce que la Grèce compte comme jeunes gens, célibataires encore et royaux, à l'épreuve. Il les convoque, ils vont vivre chez lui, et c'est à Hélène de choisir. Et bien entendu, il se dit, et c'est la raison pour laquelle il y a eu cette expédition, il se dit que lorsqu'il annoncera son choix, ou celui d'Hélène, qui sera Ménélas, roi de Sparte et de Mycène, à ce moment-là, les autres ne seront pas contents. Et c'est le Ulysse, déjà malin, rusé, qui lui donne un bon conseil, qui lui dit « voilà ce que tu vas faire. Avant de décider rien, quoi que ce soit, tu convoques tous les prétendants et tu leur fais, tu les lis par un serment que, quel que soit le choix d'Hélène et le tien, ils se sentiront solidaires du mari et si un malheur arrive dans ce lien conjugal, à ce moment-là, tous les autres devront intervenir pour rétablir les choses comme elles doivent l'être. » Et c'est ce qui est fait, elle propose Ménélas, et donc elle va vivre avec Ménélas, et il se trouve que Paris de Troie, les rois grecs sont en rapport, et des rapports même assez pacifiques, Paris va sur le continent. Il arrive, il est reçu en hôte par Ménélas, c'est qu'à un moment donné, Ménélas doit s'absenter. Il charge donc, contrairement à l'usage, son épouse Hélène de prendre en main les devoirs d'hôte qu'il ne peut plus remplir. Et pendant ce temps-là, Paris naturellement est séduit par Hélène, et Hélène est séduite par Paris. Il y a deux versions. Il y a une version blanche, elle est ravie, Paris l'enlève de force. Il y a une version noire, où elle cède à la beauté du jeune Paris, et aussi au faste oriental, à la richesse, aux vêtements. Pour les Grecs qui sont plus ascétiques, ce monde troyen est un monde un peu voluptueux, riche, trop riche d'une certaine façon. Elle part donc, et à ce moment-là, si je peux dire, les dés sont jetés. Elle a été enlevée, un Troyen, un Asiatique, de l'autre côté de la mer, reçu en hôte, séduit l'épouse, et l'emmène, impossible de le supporter. On va le rappel de tous les Grecs, et il va y avoir monté cette expédition qui va partir Dès que les vents seront favorables, ce qui supposera aussi d'autres problèmes, le sacrifice d'Iphigénie et tant d'autres choses, peu importe, nous n'en sommes pas là, il va y avoir cette expédition.
Pourtant, avant même cette expédition, il y a deux Grecs qui seront majeurs à l'intérieur de la guerre, Ulysse et Achille, qui tentent de se défiler. Donc au fond, les Grecs n'en ont pas envie de cette guerre.
Les Grecs n'en ont pas envie. Les Grecs, c'est leur fonction de guerroyer. Une partie de ces Grecs, l'aristocratie est une aristocratie guerrière. Pour Ulysse, il n'a pas envie de partir parce qu'il vient juste d'avoir un fils. Alors, Télémaque, qui est un petit bambin, encore tout petit, il n'a pas envie de le quitter juste à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire pour essayer d'échapper à ce devoir auquel il a souscrit lui-même?
Il va se faire passer pour fou, non?
Il fait le fou. L'homme qui est l'intelligence même joue le fou. On envoie Nestor pour lui dire, allez, tu rejoins toute l'armée grecque. Et il aperçoit Ulysse qui marche à reculons. Devant lui, il y a une charrue traînée par un âne et par un bœuf. Et lui marche à reculons. Et au lieu de semer du blé, il a un petit sac plein de cailloux et il sème les cailloux. Alors on dit à Nestor, mais il ne peut pas venir, il a complètement perdu la tête. Oui, oui, dit Nestor, oui, oui. Mais il se méfie, alors il attrape le petit Télémaque, encore emmailloté, et il le met entre Ulysse
et
la charrue, à un endroit où il risque d'être piétiné par l'âne ou le bœuf et d'être tué par le soc de la charrue. Naturellement, quand Ulysse voit ça, il repart en avant, il attrape l'enfant. Et Nestor lui dit, alors, tu as retrouvé tes esprits, et il part. Et à son tour, il s'en va, et là, les raisons sont différentes. C'est précisément Achille qui est en question. Pélée a eu, avec Thétis, beaucoup d'enfants, un tas d'enfants, et la déesse, elle n'est pas contente de ce statut indécis qui est celui de ses enfants, parce qu'ils sont fils d'un homme mortel, le vieux Pélée qui est déjà un homme mûr, et d'une immortelle. Quel est leur statut? Elle veut rendre ses enfants immortels. Alors dès qu'il y en a un qui naît, elle le plonge dans le feu ou dans le Styx pour l'immortaliser. En réalité, il ne supporte pas cette épreuve et ils périssent. Sauf le dernier, Achille, qu'elle a plongé dans le Styx, épreuve mortelle, en le tenant par le talon, et il a supporté cette épreuve. Il a un côté divin, il a un côté pas comme les autres. Il est non seulement plus fort que Pélée, mais cette espèce de double nature entre un dieu et une déesse fait qu'il brille d'un éclat, d'une énergie, d'une force. Il est plus rapide, il est plus fort, il est plus violent, il est plus beau qu'on ne peut l'imaginer. Alors, en réalité, aucune blessure ne peut l'atteindre, sauf au talon, parce qu'elle le tenait au talon, et que là, ce talon n'a pas été en contact avec l'eau du Styx.
D'où le fameux talon d'Achille.
Le fameux talon d'Achille. Mais alors lui, au moment où la guerre se déclare, il est tout jeune, il est encore un adolescent, il a 14-15 ans, la guerre ça va durer une dizaine d'années, quand l'Iliade va nous montrer les combats, Achille a 25 ans, donc il en avait 14 ou 15 à ce moment-là. Et pour le protéger, Pélée l'avait envoyé à Skyros, je crois bien, chez le roi. Et il vivait là autour de 50 filles, habillées en filles, pour le camoufler. Et alors Ulysse arrive et il dit, il n'y a pas ici un jeune garçon, le fils de Pélée, non, il n'y a que des filles. On peut voir, oui, jeter un coup d'œil. Et il voit 50 filles qui s'affairent. Achille est à cet âge où la dissociation des sexes n'est pas encore faite, où les filles peuvent avoir un air garçonnier et où les garçons ont encore, juvéniles, un air de jeune fille. Alors il ne remarque rien, il prend Ulysse très malin, arrive là, dit « j'ai quelque chose à leur montrer » et déballe tout un attirail de petits bijoux, de rubans, de parures, de châles. Alors quand elle voit ça, eh bien, il y a les 49 jeunes filles qui se précipitent pour regarder. Il y en a une, que ça n'intéresse pas du tout. Alors à ce moment-là, Ulysse sort un poignard guerrier, un des poignards qu'on peut avoir en corps à corps, et il le met comme ça, et à ce moment-là, cette 50e jeune fille vient regarder ce poignard. À ce moment-là aussi, une trompette guerrière se met à sonner, et on voit Achille qui part d'un côté vers la trompette, pendant que les 49 jeunes filles se sauvent dans leurs appartements, et ainsi Achille va aller à Troie. Et la guerre va avoir lieu, les Grecs vont débarquer, et dans cette guerre que raconte l'Iliade à la fin, pas tout à fait à la fin, les derniers moments, quand l'Iliade s'arrête, le chant de l'Iliade, la guerre n'est pas terminée, mais Patrocle et Hector, c'est-à-dire le compagnon d'Achille chez les Grecs et Hector, le héros correspondant à Achille chez les Troyens, sont tous les deux morts, et tous les deux, il y a eu leurs obsèques à l'un et à l'autre.
Jean-Pierre Vernon, vous avez fait allusion à la mort d'Hector, à la mort d'Achille. On n'a pas le temps de raconter ni les larmes d'Hector, ni les larmes d'Achille, ni les larmes de Priam, ni les larmes d'Andromaque, ni les larmes même des chevaux d'Achille. On n'a pas le temps même de raconter le cheval de Troie. Et pourtant, ce qui frappe dans cette guerre, c'est que certains héros, et Achille en particulier, ont eu le choix entre deux solutions de vie.
Oui, parce que cette espèce de double nature, d'ambiguïté d'Achille, qui est le fils d'une déesse, et c'est Thétis qui lui apporte ses armes, elle est présente, c'est elle qui dira ses funérailles, qui chantera ses funérailles, il a un lien avec le divin. Et en même temps, il n'est pas un dieu, il est mortel, mais il n'est pas non plus un simple mortel, il est un être à part, il est exceptionnel. Et il va incarner, dans cette histoire de l'Iliade, ce qu'on peut appeler l'idéal héroïque. C'est quoi? C'est que dès son enfance, Achille savait, et Thétis le lui a dit, que deux voies s'ouvraient devant lui. Celle, disons, de l'humanité ordinaire, celle d'une vie longue, paisible, avec un bon mariage, des enfants, une vieillesse heureuse, et tous les bonheurs que la vie humaine peut escompter. Première solution. Et s'il a ça, ensuite, il n'aura aucune gloire. Ou bien au contraire, il aura ce qu'on appelle en grec la vie brève. C'est-à-dire qu'il va brûler d'une espèce d'incandescence extrême dans sa vitalité juvénile et que l'excès même de cette incandescence va faire que il va être consumé immédiatement. Non pas contre sa volonté, mais en quelque sorte avec sa volonté. La vie brève, la mort dans l'éclat de la jeunesse. Mais en même temps, ce que les Grecs appellent kleos aphtiton, une gloire immortelle, la survie en gloire dans la mémoire de tous les humains. Et pour lui, il n'y a pas de problème, il choisit cela. On a donc dans l'Iliade la description d'un personnage qui est le modèle de ce choix, la mort héroïque, la mort jeune. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire cette chose tout à fait caractéristique. Achille a été, au début de l'Iliade, il y a la querelle d'Agamemnon et d'Achille. Ça ne va pas chez les Grecs, les gens meurent, il y a une peste, et un devin explique que cela est dû au fait qu'Agamemnon a pris la fille d'un prêtre pour concubine. Il faut qu'il la rende. Il la rend, il se soumet, mais il dit, ben, puisque c'est comme ça, je prends la jeune femme qui a été donnée à Achille, Briseis. Alors, fureur d'Achille, pourquoi? Parce que dans cet idéal héroïque, toute atteinte, si petite soit-elle, à l'honneur, à la reconnaissance par toute l'armée grecque, qu'il est le meilleur, qu'il est Aristos, ce qu'on fait de mieux. Toute atteinte à cela est insupportable. Et alors, on voit très nettement apparaître ici, dans la diatribe d'Achille contre Agamemnon, il lui dit publiquement, l'armée a fait cercle, et là on parle au milieu de ce cercle, comme des rois parlent à des rois, même si le plus roi de tous c'est Agamemnon. Il lui dit, tu es peut-être le plus roi de tous, mais tu n'es qu'un pleutre, tu es un lâche, tu es incapable de faire quoi? ce que je fais moi tous les jours, c'est-à-dire d'affronter la mort en combat singulier, de mettre en jeu à chaque moment sa propre vie. Et lorsque Agamemnon, pour essayer de recoller les morceaux de l'amadoué, lui apporte d'infinis présents, d'infinies richesses, et lui dit « Je te donne ma fille, et je te donne, tu viendras vivre avec moi », il répond « Ça ne m'est rien. Tout ce que tu m'offres, c'est la vie ordinaire. Ce sont des biens qui, quand on les a perdus, peuvent être retrouvés. Et moi, ce que je mets en jeu, et qui est l'idéal héroïque, c'est à chaque moment ce qui, si je le perds, ne se retrouvera jamais. Ma vie même, moi-même. Tous les jours au combat, je me mets en jeu. Et ça, c'est l'idéal héroïque. La vie brève. Et le mort, qui a été abattu en pleine jeunesse, et donc quand il est couché sur son lit de mort, tout le monde aspire la beauté. Il y a le cas, par exemple, d'Hector. Oui. Hector est abattu par Achille. Il est sur le champ de bataille couvert de plaies. Qu'est-ce que nous dit le poème ? Que tous les Grecs font cercle, le dépouille de ses armes. Il est là, Gumnos, nu, dépouillé de ses armes, mort. Et qu'est-ce que font les Grecs ? Ils admirent la beauté d'Hector. Parce que lui aussi, il a fait cela. Il a fait que cette vie humaine que les dieux nous ont réservée, où on monte pendant un certain temps jusqu'à l'âge adulte, et puis on dégringole. Ils n'ont pas voulu cela. D'une certaine façon, ils choisissent une autre forme de non-mort que celle que les dieux nous ont réservée. La non-mort humaine, c'est d'avoir des enfants, d'être un vieillard qui voit ses enfants et ses petits-enfants autour de lui. Et eux, la non-mort, c'est pas l'immortalité divine, on ne peut pas la voir, mais c'est la mort en gloire. C'est la fête qu'aujourd'hui, et moi-même en train, je suis en train de parler d'Achille comme s'il était vivant, et que par conséquent, il a eu vraiment Cléos Aftiton, la gloire immortelle. Et c'est ça qu'exprime l'Iliade.
Alors, à côté des hauts faits héroïques que vous rapportez bien de cette guerre de Troie, il y a aussi des horreurs, des exactions terribles. Est-ce que quand les Grecs réfléchiront à la guerre de Troie, est-ce qu'ils auront une vision aussi critique de cette guerre ?
Oui, dans l'Iliade, ça c'est une guerre qui a ses règles, qui est comme une espèce de rituel, on amène les gens en charge devant le champ de bataille, et là il y a une série de combats qui sont des combats singuliers entre les héros. Mais il y a une logique de la guerre qui est très bien décrite dans l'Iliade, et qui est que la guerre, à un moment donné, elle bascule du côté de la sauvagerie, de la bestialité. Et même Achille cède à cela. Il cède à cela, à un moment donné, il est possédé par une sorte de fureur meurtrière. Et alors, c'est l'horreur. C'est l'horreur, et bien entendu, dans l'Iliade, il y aura le contrepoint. Il essaye, voilà l'horreur qui continue, il essaye de priver Hector de cette gloire immortelle en mutilant son cadavre, en le laissant pourrir au soleil, dévoré par les bêtes, devenir une espèce d'amas informe de putréfaction. Tuer l'adversaire, c'est rien. Ce qu'il faut, c'est pas seulement le tuer, c'est faire qu'il n'existe plus. Et pour qu'il n'existe plus, il faut le déshonorer à travers son corps, mutiler son corps, affreux. Mais en même temps, contrepoint, quand le vieux
Priam
vient et réclame le corps de son fils, la rage en même temps d'Achille, c'est parce que son frère, son double lui-même, d'une certaine façon, en purement humain, Patrocle, peut-être son ami de cœur aussi, est mort. Et il est mort, c'est Hector qui l'a tué. Il y a donc en même temps une frénésie de vengeance. Mais en même temps, quand il est là devant le vieux Priam, dans sa tente, alors il y a une sorte d'échange des rôles, et quelque chose qui apparaît, qui est le contraire de la bestialité, qui est l'accord, qui est la vibration d'une similitude. Il pense à son vieux père, à lui, et il rend le corps, sans hésiter. Sa haine est tombée, à la place de la haine, il y a quelque chose qui est la compréhension, je ne dis pas l'amour, mais quelque chose qui est un peu de ce genre-là.